Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La parole se libère en Pologne. Les actes pédophiles commis au sein de l'Église ne sont plus un tabou. En témoigne le succès phénoménal du film Claire, le clergé en polonais. 2 millions d'entrées pour un long métrage qui n'épargne rien à l'institution, coupable d'abus sexuels mais aussi de malversations financières. Une association intitulée N'ayez pas peur qui vient en aide aux victimes de prêtres pédophiles a aussi créé sur internet une carte de Pologne interactive où sont recensés tous les cas d'abus. À Varsovie, tous les membres de ce mouvement et des sympathisants ont défilé pour présenter ce projet et dire leur détermination. Reportage sur place de Thomas Giraudot.
Katowice, Gdansk, Szczecin, une à une pendant 3 longues minutes, les villes où des enfants ont été violés par des prêtres sont énumérées, devant la foule sur une grande bannière en plastique, la carte de la Pologne sur fond blanc, également consultable sur internet. En cliquant sur chaque point, des informations sur les affaires apparaissent. La carte compte déjà au moins 300 points, orange pour les affaires de pédophilie relayées par des médias locaux, noir pour celles où le prêtre a été condamné, rouge pour les victimes qui ont appelé la fondation Niele Kajcesie, n'ayez pas peur. Marek Lisinski en est le président.
Depuis 5 ans, 2 personnes de la Fondation travaillent sur cette carte. Elles ont collecté de nombreux témoignages, ont vérifié leur authenticité, parce qu'on ne veut pas accuser sans fondement des hommes d'église. Et je veux que chaque personne qui consulte cette carte se dise « Ah, dans mon village d'enfance, des personnes ont subi des actes pédophiles. C'est mon cas. Maintenant, je ne me sens plus seul. Je peux témoigner. » Cette victime peut appeler la Fondation et nous compléterons la carte.
La peur, l'impression d'être seul, c'est ce qui a empêché Marek Lisinski de parler. Abusé par un prêtre à l'âge de 13 ans, ce n'est que 28 ans plus tard qu'il a enfin tout raconté, sur le divan d'un psychologue. Barbara Najak exerce ce métier. Elle est venue assister au dévoilement de la carte avec ses 2 jeunes enfants.
Mes enfants et tous les autres, ce sont eux les victimes. Ils n'ont pas la capacité de se défendre. C'est notre rôle, nous adultes, de les protéger. En tant que psychologue, je connais bien le problème de la pédophilie. Je ne suis donc pas surprise par le contenu de cette carte et son ampleur. Et je suis sûre qu'elle est loin d'être complète.
À quelques mètres, Alicia, une grand-mère catholique, est beaucoup plus choquée. Elle tient dans ses mains une pancarte où est écrit « Vos mains loin des enfants ».
Je suis effrayée, vraiment effrayée par ce que je vois là. Et je crois que le nombre de victimes va augmenter de jour en jour. La carte va devenir de plus en plus vaste. Je suis très en colère, c'est une véritable tragédie.
Dans la foule, un acteur polonais célèbre et militant, Krzysztof Piaczyński, porte la bannière de son association Pologne Laïque.
On voit beaucoup de zones blanches, vous voyez, surtout au nord-est de la Pologne. Ce sont les régions que je considère comme les plus empoisonnées par le catholicisme, celles où la religion inspire la plus grande peur aux gens.
Mais je ne peux pas me libérer de son embrasse.
Au micro devant l'église Sainte-Anne de Varsovie, Joanna Schöring-Wielgus lit le témoignage d'une victime qui a osé dénoncer son bourreau. Députée libérale sociale, elle milite aux côtés des membres de la Fondation N'ayez pas peur pour la création d'une commission parlementaire sur la pédophilie dans l'église. Elle s'appuiera sur la carte.
Nous souhaitons inviter les victimes, les membres du clergé, divers représentants des partis politiques et des psychologues, tout le monde. On réclame aussi la fin de la prescription des crimes pédophiles, que les procureurs ait enfin accès au jugement des tribunaux ecclésiastiques et que les prêtres soient jugés comme les autres citoyens.
C'est l'impression qu'a Marek Mielewczyk, le cofondateur de l'association N'ayez pas peur, celle d'une justice à 2 vitesses, et son histoire l'illustre bien.
J'ai été victime d'un prêtre pédophile à l'âge de 13 ans. J'ai intenté un procès au civil qui a duré 4 ans. Il y a eu une première sentence. Mais je veux faire appel, parce que le juge a juste demandé au prêtre s'il voulait bien me faire des excuses par écrit, rien d'autre.
«
Ce qui choque le plus Marek Mielewczek, ce sont les évêques qui, pour protéger les prêtres accusés de pédophilie, les ont simplement envoyés dans d'autres paroisses. Le directeur de l'agence catholique d'information, Martin Pietrzyszewski, le reconnaît. Cela s'est fait jusqu'au milieu des années 2000, mais selon lui, c'est terminé.
Depuis quelques années, la Confédération des évêques polonais suit des règles strictes provenant du Vatican. Un prêtre accusé est directement amené devant un tribunal ecclésiastique. Il ne bénéficie pas de traitement de faveur et peut être suspendu de sa fonction, voire même exclu de l'ordre ecclésiastique. Quant aux évêques, ils doivent tout de suite informer le Vatican. S'ils ne le font pas, s'ils cachent une affaire, alors ils peuvent perdre leur siège.
Mais les tribunaux ecclésiastiques n'ont pas le pouvoir d'envoyer un homme d'église en prison et la justice est souvent saisie trop tard par les victimes pour qu'un prêtre soit condamné pénalement. Ces dernières semaines, plusieurs évêques du pays ont présenté publiquement leurs excuses face au scandale de pédophilie. L'église polonaise rappelle aussi sa politique de tolérance zéro, oblige chaque diocèse à mettre en œuvre un programme de prévention et promet de publier ses propres chiffres sur les crimes pédophiles dans quelques mois.
Et en Italie, c'est l'omerta dans l'église, mais aussi dans les médias. Aucune enquête ni aucune stratégie de lutte contre la pédophilie n'a à ce jour encore été mise en place. À Rome, Eric Senanc.
Si l'on compare avec l'Irlande ou l'Allemagne où des commissions d'enquête ont été mises sur pied et où des rapports surtout ont permis de chiffrer précisément l'étendue du fléau, l'Italie est à la traîne. Le pays n'a pas encore connu son moment de vérité sur cette question, explique le père Hans Zollner, responsable du Centre de protection des mineurs à l'Université pontificale grégorienne de Rome. Pour ce jésuite qui rencontre des évêques du monde entier afin de mieux les former dans la lutte contre la pédophilie, les prélats italiens doivent faire plus, comme leurs homologues allemands par exemple, qui ont ouvert leurs archives. Les évêques italiens ont publié en 2014 leurs dernières recommandations en matière de lutte contre la pédophilie. On y lit notamment qu'ils n'ont aucune obligation légale de dénoncer aux autorités civiles des cas d'abus. L'an dernier, un groupe de travail a été créé au sein de la conférence épiscopale italienne, l'ensemble des évêques à la tête de l'Église dans le pays, pour traiter cette question, preuve que la réflexion avance, mais les outils efficaces sont encore trop peu nombreux. Le réseau Abuso, association de victimes de prêtres pédophiles, dénonce une omerta encore très grande dans le pays, y compris dans les médias italiens qui ne traitent que très peu la question. Selon Abuso, 136 prêtres font actuellement l'objet d'une enquête judiciaire pour pédophilie ou agression sexuelle en Italie, sans compter ceux qui ont été dénoncés mais pour lesquels les faits sont prescrits. Le plus grand scandale serait de couvrir la vérité, affirmait il y a peu le cardinal Bassetti, le chef des évêques italiens. Les victimes, elles, attendent que ces évêques passent à la vitesse supérieure.
La route des Balkans suivie par les migrants pour rejoindre l'Europe suit un détour inattendu. Alors que les contrôles en Macédoine et en Serbie sont de plus en plus sévères, les demandeurs d'asile optent pour l'Albanie, un pays qui est pourtant aussi une terre d'émigration. Pourquoi ce choix et comment les autorités albanaises gèrent-elles ces arrivées? C'est le reportage de Louis Cellier.
Ils sont nombreux ces derniers mois à essayer de gagner l'Europe de l'Ouest via l'Albanie et ses reliefs montagneux. Parmi eux, une majorité de Syriens, mais aussi de nombreux migrants originaires du Maghreb, du Moyen-Orient ou d'Asie centrale, comme Ahmed, qui a fui le Pakistan.
J'ai 26 ans et je suis arrivé ici le 22 août. Je suis parti du Pakistan en passant par l'Iran, ensuite la Turquie, la Grèce et puis l'Albanie. Ça fait 2 ans que je suis parti maintenant.
Depuis la fermeture de la route des Balkans au printemps 2016, les autorités albanaises redoutaient un afflux de réfugiés. Au gouvernement, les mouvements aux frontières du pays sont suivis de près par la vice-ministre de l'Intérieur, Rovena Voda.
En 2017, au total, 1700 migrants illégaux sont entrés en Albanie. Mais dans les seuls 7 premiers mois de 2018, il y a eu plus de 4000 migrants. Donc le flux a augmenté par rapport à l'an dernier. Ces chiffres montrent que l'Albanie a été très impactée par un fort mouvement migratoire.
Malgré l'augmentation spectaculaire du nombre de personnes, les autorités de ce petit pays pauvre des Balkans refusent de parler de nouvelles routes pour les réfugiés. Mais mesures de protection, les contrôles aux frontières ont été renforcés.
Bien sûr, j'admets que nous avons eu une période difficile et le flux migratoire a été plus important qu'en 2017. Mais je ne pense pas que l'Albanie soit une nouvelle route vers l'Union européenne.
Malgré des capacités d'accueil limitées, les autorités de Tirana se sont distinguées cet été en proposant d'accueillir 20 passagers érythréens du Djibouti. ce navire des gardes-côtes italiens bloqué au large de la Sicile par le gouvernement de Matteo Salvini.
C'est une décision basée sur les principes humanitaires et j'en suis vraiment fière. L'Albanie est un pays de départ, de transit, mais aussi de destination. Nous, Albanais, savons ce que veut dire émigrer. Nous comprenons très bien les besoins de ces gens. Ce que nous avons proposé est un geste de bonne volonté et à la hauteur de ce que nous pouvons faire.
Après avoir enduré souffrance et privation, les migrants qui arrivent en Albanie s'étonnent souvent de l'accueil de la population. La Bessa, ce code d'hospitalité traditionnel, impressionne Tela, un jeune Syrien qui a obtenu l'asile dans le pays. Il ne se voit pas repartir.
Pour moi, l'Albanie, c'est ma deuxième pays. J'ai vu beaucoup de choses. Et sans pas racisme, la première chose. Ici, un mixte de beaucoup de religions. Ici, il y a des musulmans, il y a des chiites, orthodoxes en sud, en nord, les catholiques. Elle est mélangée, des juifs. Mais moi, je n'ai pas regardé un problème. C'est magnifique.
Alors que les sociétés européennes se déchirent à propos de l'accueil des migrants et que la question de l'islam s'est imposée au cœur des débats, ces questions n'ont pas lieu d'être en Albanie. C'est en tout cas l'avis du politologue Ilir Kalemaj.
Vous avez vu que certains pays comme la Slovénie, la Hongrie, la République tchèque ou la Pologne ont dit qu'ils n'accepteront que des migrants chrétiens. Ce qui représente un dixième des personnes concernées. Le critère religieux n'a jamais été un problème pour l'Albanie et ne le sera jamais car l'Albanie est un pays qui comporte 60% de musulmans et 40% de chrétiens.
Déclaré athéiste par constitution en 1967, l'Albanie contemporaine s'enorgueillit de sa traditionnelle coexistence pacifique des religions. Un atout pour Ilir Kalemaj, qui voit même dans cette immigration inédite une chance pour un pays confronté à une démographie en berne.
La moyenne d'âge de la population albanaise est passée de 32 à 37% en 5 années seulement. Cela est dû à une faible natalité et à l'émigration albanaise vers les pays occidentaux. Sur le long terme, l'Albanie doit voir une opportunité dans l'immigration.
Malgré un nombre record de demandeurs d'asile en 2018, bien peu voient leur avenir dans ce pays où les salaires sont les plus faibles d'Europe. Pour Ahmed et ses amis, l'Albanie n'est qu'une étape.
Oui, j'ai demandé l'asile, mais il n'y a pas les mêmes opportunités ici. Et puis je ne connais pas les possibilités de travail, je n'y pense même pas. On pense aller en Italie, où ils nous donneront des documents, et dans le futur, on rentrera au Pakistan.
Alors que l'Union européenne planche toujours sur l'ouverture de camps de réfugiés hors de ses frontières, en juin dernier, plusieurs médias avaient évoqué le nom de l'Albanie. Sans rejeter ni confirmer cette possibilité, les autorités de Tirana l'assurent, ce n'est pas à l'ordre du jour.
Ce qu'on vit aujourd'hui à Grande-Synthe, avec cette population de réfugiés, de migrants qui fuient les guerres, qui fuient les dictatures, qui fuient le terrorisme, et ben demain ils devront fuir le réchauffement climatique. On a de la place pour faire vivre tout le monde sur cette planète.
Ce qu'on doit être, c'est 100% réaliste, actif, résistant, 100% solidaire aussi, 100% humain.
Et quand on parle d'accueil des migrants, Grande-Synthe, dans le nord de la France, près de Calais, est une ville qui est devenue le symbole de l'incapacité des pouvoirs publics à gérer le flux migratoire. Depuis l'incendie du centre d'accueil mis en place par le maire, Damien Carême, de nouvelles jungles de tentes se forment, des migrants qui errent dans l'espoir de rejoindre l'Angleterre, des jungles démantelées tout aussi régulièrement par les forces de police. Grande-Synthe, la ville où tout se joue, c'est aujourd'hui un documentaire de Béatrice Camurajo, qui est dans les salles depuis mercredi dernier. La réalisatrice y présente des citoyens combatifs dans une localité qui cumule les crises, les migrants, le chômage et la pollution industrielle. Elle est interviewée par Catherine Roland.
Je suis un jour arrivée dans cette ville et la première chose qu'on voit, c'est un alignement de 15 usines Seveso, niveau 2. Donc il y a ArcelorMittal avec les torchères, il y a une espèce de vision dantesque de cet univers ouvrier. Et puis on bascule ensuite vers la ville, très ouvrière, avec des HLM construits dans les années 60 en chemin de grue, comme ça, une longue avenue. Au bout, il y a le cinéma. Je m'assieds dans la salle pour parler avec le public et là, je rencontre des gens très instruits sur le plan justement écologie, sensibles. Puis l'hiver 2015 arrive avec le flot de réfugiés qui arrive à Grande-Synthe et là je me dis c'est pas possible. Il y a toutes les thématiques qui me bouleversent.
Il y a donc ce maire écologiste, les Verts, Damien Carême, volontaire donc, très charismatique et lui, il ne baisse pas les bras.
Non, Damien Carême, rien ne l'arrête. Et moi, il me surprend tout le temps. Il a toujours une idée d'avance. Lui, ce qu'il imagine, c'est vraiment la ville de demain, la vie de demain.
Mais il répond également aux urgences. Hein. Nous parlions des migrants. Donc après la fermeture de la jungle de Calais, un camp de réfugiés à Grande-Synthe passe à quasiment 3000 personnes. Les conditions de vie étaient épouvantables et l'État n'a pas du tout répondu à ces demandes. Donc c'est lui qui a dû s'organiser avec les associations locales.
Oui, avec Médecins Sans Frontières, MSF à l'époque. Il a dit, ok, je peux pas laisser ces personnes-là dehors, c'est impossible. Moi, en tant que maire, j'ai deux obligations, de devoir répondre au bien-être de mes habitants et puis de toute personne qui passe sur ma commune. Donc, il a dit, on a un terrain là, avec MSF, on va construire effectivement un camp de réfugiés. Bon, pour lui, ça n'était absolument pas, et ça n'est toujours pas, la bonne solution pour lui. Ce qu'il préconiserait, c'est qu'effectivement, chaque ville prennent sa part et tout se passerait bien plus simplement. Des endroits où on a le temps d'accueillir humainement, quoi.
C'est ce que propose d'ailleurs Emmaüs, hein, c'est l'autre association qui travaille dans le camp, qui propose aussi de faire travailler les migrants qui vont offrir des repas.
Vous avez plusieurs associations, vous avez Salam, vous avez Emmaüs qui, elle, effectivement, a ce qu'on appelle les compagnons. Et dans les compagnons, nous avons aussi parfois des réfugiés. Et puis, il y a une troisième association qui s'appelle Le Réchaud, qui est venue pour faire des interventions de cuisine partagée avec les réfugiés. Et c'était surtout pour les femmes et les enfants, des moments d'une grande convivialité.
Alors, ce qui nous amène à l'autre portrait charismatique de Grande-Synthe, le documentaire, hein, c'est la directrice d'Emmaüs.
Sylvie Desjonquères, qui est une figure, effectivement, de grande sainte qui mène tout son monde de main et de cœur, de maître. Tous les matins, la journée commence à 8h. Il faut que tous les compagnons se disent bonjour et on s'embrasse. Puis après, on y va. Quand on y va, on n'a pas intérêt à s'arrêter.
Ah oui, on comprend qu'il faut bosser avec elle.
Il faut bosser. Mais après, il y a des moments de tendresse. Ces compagnons, souvent, il y a aussi des personnes qui étaient à la rue et qui ont eu plus de 30 ans de rue et qui se retrouvent là. On les sent, mais c'est des personnes qui ont trouvé un endroit pour justement se redonner de la dignité. Ça, c'est, il me semble, important. C'est ce qu'elle arrive à leur insuffler.
Alors la dignité, hein, c'est un mot très important à travers votre documentaire. Damien Carême, le maire, en parle souvent. Il a ce projet qui est assez global, finalement, de redonner de la dignité à tous ses habitants. Et on dit d'ailleurs que Grande-Synthe est en pointe dans la transition écologique.
Grande-Synthe, c'est comme cette ville de Rob Hopkins, la ville en transition, dans toute sa grandeur, quoi. Je vais commencer peut-être par citer les 13 cantines scolaires en bio qui vont très prochainement être complètement locales et de saison automatiquement. Et puis, Damien Carême, il est en train d'installer aussi toute la communauté urbaine en bio. Les transports sont gratuits. Tous les immeubles, quand ils sont rasés, sont reconstruits par des immeubles passifs. Il y a une université populaire qui permet aux personnes de fabriquer des produits d'entretien pour un coût très moyen. Donc ça leur permet de mieux vivre. Il y a les jardins potagers au pied d'immeubles, il y a les jardins ouvriers, le cheval en ville qui permet de freiner la circulation.
Alors est-ce qu'on peut dire, pour conclure, que finalement c'est un laboratoire pour les villes du futur ?
Alors voilà, dans un laboratoire on fait des expériences, on peut se tromper, mais ce qu'il faut c'est essayer. Je ne suis pas sûre que Grande-Synthe soit à 100% gagnante, mais on n'a plus trop le choix. Aujourd'hui, il faut vraiment se mettre en action.
Grande-Synthe, la ville où tout se joue, un documentaire de Béatrice Camurajo. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique magazine et Accent d'Europe. On se retrouve dès demain.